7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, les startups en Afrique. Le petit monde des startups sur le continent est en ébullition depuis en gros 10 ans, depuis que le mobile banking, le transfert d'argent avec un simple téléphone portable, a conquis des millions d'utilisateurs. Cela a ouvert la porte à d'autres innovations et services qui passent toutes par le téléphone mobile. Des applications, déclaration des naissances, cours des prix du poisson, déclenchement de l'irrigation dans les champs, contrôle des bureaux de vote. Les innovations sont très nombreuses, de Lagos à Dakar, mais toute la question, c'est de savoir si elles transforment le continent en profondeur. Et là-dessus, on aimerait bien sûr avoir vos témoignages, les voisins et les voisines. Quels sont les services que vous utilisez au quotidien, dans votre semaine, qui émanent d'une petite entreprise africaine du numérique? C'est peut-être une question que vous vous posez rarement, tellement c'est devenu automatique. Alors pensez-y, appelez-nous pour partager, surtout dès maintenant, au 33 1 84 22 71. 71, c'est aussi notre numéro de téléphone WhatsApp et vous pouvez nous laisser des messages. Mais on préfère vous avoir en direct pour vous exprimer, vous, nous, en discuter de ce sujet. Nos invités, Samir Abdelkrim, bonjour.
Bonjour.
Vous signez une des enquêtes les plus complètes sur le sujet, ça s'appelle Startup Lions, je la montre pour ceux qui regardent l'émission en vidéo, au cœur de l'African Tech. Vous êtes entrepreneur, consultant. Combien de pays sillonnés, de kilomètres parcourus, de start-up visités, d'incubateurs? Quelques chiffres.
Je dirais entre 2014 et 2017, j'ai fait donc cette enquête de terrain, qui a aussi un travail de recherche, couvert à peu près une vingtaine de pays africains.
Pas mal d'auditeurs nous demandent, qu'est-ce qu'une start-up? Est-ce que vous auriez une définition simple en une phrase? Une start-up africaine, Samir?
Alors, si je devais définir ce que c'est qu'une start-up africaine, moi je dirais que c'est un start-upper africain, c'est celui qui va... une start-upeuse africaine. En tout cas, dans le domaine que moi je connais, c'est celui ou celle qui va se servir du numérique pour résoudre un certain nombre de problèmes fondamentaux et essayer de trouver un modèle économique autour pour générer de la croissance et atteindre un maximum d'utilisateurs.
Awaya Mohamed est également avec nous. Bonjour Awaya.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice d'Afrobytes. C'est une plateforme qui connecte les startups africaines avec le monde high-tech, que ce soit aux États-Unis, en Europe, dans le reste du monde. À moins que ce ne soit d'ailleurs plutôt le contraire, parce que le business numérique du monde entier maintenant veut désormais voir ce qui se passe en Afrique et ce qu'on pourrait faire avec les startups africaines. Vous, qu'est-ce que vous donneriez comme définition des startups africaines?
Je rejoindrais en effet ce que dit Samir. Il y a un terme d'ailleurs en anglais, pardonnez-moi, qui dit que les startups africaines sont des problem solving companies. En effet, c'est vraiment cette dynamique-là. Voilà, il faut sortir du contexte, parce que quand on parle de startups, d'écosystèmes innovants, on pense souvent à la Silicon Valley, mais là, c'est tellement spécifique. Voilà, les tendances commerciales, l'environnement commercial est tellement différent que voilà, elles ont vraiment, pour le coup, pour moi, elles sont voilà. Enfin, c'est pour moi des entreprises qui ont des challenges énormes à affronter chaque jour.
Vous citez dans votre livre, Samir Abdelkrim, le Nigérian Mark Essien, qui est un entrepreneur tech au Nigeria. Et il dit, n'importe qui peut vous sortir une liste de 2000 très bonnes idées sur le papier, mais 2000 idées qui ne résolvent aucun problème, ça sert à rien. Le secret, c'est qu'il faut construire un produit que les utilisateurs veulent et rien d'autre. Voilà. Et ben, on en sera également en ligne avec Oumar Yam, qui est cofondateur de Wikari. C'est une structure logistique qui permet à ses clients d'acheter partout dans le monde et d'être livré au Sénégal. Et ça répond à un vrai besoin. Et quant à vous, les voisins et les voisines, appelez-nous pour nous dire ce que vous utilisez comme service de start-up africaine dans votre pays. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
RFI, on est ensemble.
7 milliards de voisins.
Quand on sera 8 milliards, tu vas dire quoi?
J'ai refait le monde avec 7 milliards de voisins.
Et on accueille un auditeur qui nous appelle d'Abidjan. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Thierry, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Qu'utilisez-vous comme service de start-up africaine au quotidien?
Ok, ben, j'utilise Par exemple, une application à Abidjan qui me facilite la vie, c'est Pharmacie. Pharmacie, c'est une application qui permet de connaître les pharmacies qui sont de garde, surtout la nuit. Lorsque vous devez acheter un médicament et que toutes les autres pharmacies sont fermées, cette application-là vous permet de savoir quelle pharmacie est de garde. Et donc, ça vous évite de tourner dans la ville avant de pouvoir avoir un médicament.
Oui, très pratique.
Voilà, c'est très pratique. Oui, allez-y.
Et je crois que ça vous renseigne aussi sur le prix des médicaments, c'est ça?
Voilà, donc la version payante vous renseigne sur le prix des médicaments. Et elle va même jusqu'à vous renseigner sur les assurances qui sont acceptées dans les pharmacies de garde. Donc c'est extrêmement pratique, ça vous permet de prendre toutes vos dispositions avant de vous déplacer la nuit.
Très très utile, Samir Abdelkrim.
Voilà.
Bonjour, j'imagine que cette application permet aussi d'avoir un mapping des pharmacies officielles et donc de lutter contre les faux médicaments.
Une cartographie.
Si on va par exemple dans le quartier d'Adjamé, il y a un vrai trafic de faux médicaments à Abidjan. Avoir ce type d'outil permet justement de lutter contre le fléau des faux médicaments.
Est-ce que cette application que vous utilisez, vous avez aussi par exemple un code à gratter pour savoir si, pour vérifier que c'est pas un faux médicament comme c'est le cas
Pour cette application là non, j'ai jamais pas encore, elle ne va
d'accord.
pas encore jusqu'à ce niveau.
Non, mais permet de référencer les pharmacies
les pharmacies qui sont légales,
qui sont sûres.
C'est ça, parce que vous allez dans les pharmacies qui sont déjà répertoriées comme étant des pharmacies qui ne vendent pas de faux médicaments, Thierry. Parce Samir vous posait la question parce qu'il existe à l'heure actuelle, Samir Abdelkrim, une start-up qui a été montée au Ghana, si je ne me trompe pas, qui permet, c'est du grattage, on gratte un code sur la boîte de médicaments, on envoie le code par SMS. Sur une plateforme qui...
C'est Brett Simons, le fondateur.
C'est ça, et qui répond automatiquement, ce médicament est référencé, c'est pas un faux médicament.
Tout à fait, et c'est plus seulement en Afrique.
Oui, et bien vous voyez, ça va arriver chez vous.
Le déploiement aujourd'hui s'effectue aussi en Asie.
D'accord. Et Thierry, vous utilisez un autre service de start-up africaine?
Ok, effectivement, j'utilise également Jumia aussi pour les commandes en ligne. Jumia pour commander en ligne, que ce soit des articles ou bien même pour la nourriture. Il y a Jumia Food également.
C'est ça.
J'utilise pour commander à manger quand je suis vraiment congé.
Et vous faites livrer donc chez vous à Abidjan, Jumia, qui a été fondée d'abord au Nigeria, d'ailleurs par deux Français, mais on peut considérer que c'est une start-up africaine.
Oui, l'histoire est un peu plus longue. À l'époque, c'est plutôt Rocket Internet, des Allemands. Puis après, ils ont fait
avec
des levées de fonds.
Des investisseurs allemands.
Alors, les Allemands étaient dilués, maintenant c'est un peu plus africain.
Merci beaucoup Thierry de nous avoir appelés. On se pose donc la question... à quoi servent les start-up en Afrique, les start-up africaines, et peuvent-elles vraiment changer le continent en profondeur? Awaya Mohamed, qu'est-ce que ça vous inspire, là, le témoignage de Thierry?
Écoutez, c'est intéressant justement de voir l'importance, l'impact de ces applications sur la vie quotidienne des gens, et c'est vraiment ça qu'on met en valeur aussi nous avec Afrobytes. Si vous parliez de plateforme, en effet, on organise chaque année un événement physique où les gens peuvent se rencontrer, et cette marketplace, comme on dit, une place de marché pour être plus simple, en fait s'humanise justement avec cette rencontre, cette poignée de main qu'on crée justement pour justement favoriser les meilleures conditions possibles pour que les acteurs du continent africain et le reste du monde puissent se rencontrer et faire du business ensemble. Et surtout, et là vous avez un rôle très important, on en parlait tout à l'heure hors micro, les médias, vous avez un rôle important dans la visibilité de ces entités-là.
Alors certains pensent quand même que les entrepreneurs du numérique vivent dans leur bulle technologique. C'est vrai que quand ils parlent entre eux, on ne comprend pas tout. Est-ce que vous pouvez nous prouver, Samir Abdelkrim, avec les nombreux reportages, enquêtes que vous avez effectués, qu'ils viennent du cœur des populations africaines?
Si on parle d'écosystème africain, alors là, à l'instant, le mot Silicon Valley a été prononcé. Le contraire, c'est l'exact contraire de ce que l'on peut voir ailleurs dans le monde. Si on prend l'exemple en 10 secondes, l'exemple paradigmatique de la Silicon Valley, c'est l'État, la puissance publique.
En Californie, aux États-Unis.
En l'occurrence, c'était le complexe militaro-industriel qui a créé l'écosystème. Dans les écosystèmes africains, ce que j'ai pu observer, c'est l'inverse. Donc, le modèle occidental du Nord, c'est la régulation qui précède la création de start-up et d'écosystèmes. En Afrique, c'est les entrepreneurs qui créent leur propre écosystème et l'État vient après. Et souvent, ce sont les populations dans les quartiers les plus populaires. Il y a plein d'exemples. Les plus connus, en termes de storytelling, il y a beaucoup de contenu qu'on retrouve sur ça. Il y a Lagos. Et Nairobi, les écosystèmes, les premiers incubateurs, les premiers tech hubs ont été créés par les entrepreneurs eux-mêmes dans les quartiers les plus difficiles ou les plus populaires à Lagos, donc le quartier d'Yaba, où le CC Hub a été créé par les entrepreneurs.
Un incubateur
à partir d'un hackathon. Et avant le hackathon...
C'est un
événement où les entrepreneurs, parfois qui ne savent pas qu'ils sont entrepreneurs, mais où des talents, des geeks, des designers, des codeurs, des gens de la diaspora qui reviennent mais qui ont des compétences, se rassemblent autour d'un défi à résoudre et autour de la résolution d'un problème concret avec, s'ils ont un sponsor, ils ont un petit prix à la fin.
Ça peut être, par exemple.
Alors, là, dans le cas de Lego, ce n'était pas de résoudre des problèmes d'optimisation de la vie d'un cadre stressé en Europe, mais là, c'est de résoudre comment on met fin à la corruption dans l'administration publique à Lego, comment on sauve des vies parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, comment est-ce qu'on met fin aux problèmes de sécurité. Ces écosystèmes sont immensément caractérisés par leur caractère à la fois populaire et organique. Et c'est comme ça que j'appelle, le terme que j'ai trouvé dans mon livre, c'est l'innovation organique, c'est une innovation qui vient du terrain, en l'absence de régalien.
Ouais. Et l'histoire, vous le racontez bien dans votre livre, a commencé au Kenya avec M-Pesa. Tout le monde sait comment fonctionne aujourd'hui le mobile banking en Afrique. Oh, c'est Orange Money en Afrique francophone. Hein. Mais vous racontez-vous les coulisses de cette innovation qui s'est faite un peu par hasard, finalement,
alors,
en quelques mots.
Tout à fait. Alors, juste avant de parler de M-Pesa, parce que ça se passe actuellement sous nos yeux, comment est-ce que justement ce sont les entrepreneurs qui créent ces écosystèmes et prennent le lead par rapport aux États? Actuellement au Sénégal, à Dakar, il y a la communauté locale qui est emmenée par plusieurs acteurs. Je pense notamment à Eva Soebion, qui est l'ancienne directrice de la communication du CETIC, qui actuellement mène une grande consultation pour le Sénégal Startup Act, qui s'inspire de ce qui s'est fait ailleurs, notamment en Tunisie, pour pouvoir justement faire des propositions qui seront ensuite reprises par le gouvernement, mais c'est d'abord l'écosystème qui se mobilise. En ce qui concerne...
Mais revenons aux usagers, aux consommateurs.
Et en ce qui concerne la question de l'apparition
du transfert d'argent,
avant l'invention formelle du mobile banking,
c'est ce qui a tout déverrouillé pour les startups africaines. Il faut le redire.
Voilà, j'ai fait une petite enquête. Lorsque le téléphone portable est apparu au Kenya, donc 99, il y avait à peu près 40 000 appareils mobiles. En 2 années plus tard, il y en avait plus d'un million. Et à l'époque, il n'y avait pas la fonction de mobile banking, mais la fonction de transfert de airtime, du crédit de communication, pour passer des appels ou envoyer des SMS. Et lorsque je discutais, j'avais rencontré dans un township de Johannesburg un consultant qui a créé une société de microfinance, qui était un des tout premiers consultants kényans, début des années 2000, qui avait compris qu'il y avait un usage détourné du airtime, un hacking de l'usage du airtime.
C'est-à-dire, en fait, en français, qu'on se servait de ce crédit, moi je l'ai vu sur le continent, des gens qui remboursent des dettes, par exemple, avec du crédit téléphonique.
Tout à fait.
Maintenant,
plus
besoin, évidemment.
C'est-à-dire que les gens achetaient du airtime, non pas pour appeler, mais pour se le transférer.
Et une monnaie.
Comme une monnaie. Et on voyait, donc c'était un détournement de l'usage, et il y avait des milliers d'heures de airtime qui circulaient d'un point à un autre, qui voyageaient à travers le Kenya sans jamais être consommées. Et c'est en 2005-2006 que Safaricom, ou plutôt Vodafone, a compris qu'il y avait un glitch, qu'il y avait une faille, qu'en fait il y avait un détournement de l'usage, et que tout simplement les Kenyans avaient appris à hacker la banque, parce qu'en fait, le problème qu'ils résolvaient, c'était la non-bancarisation
des habitants, comme le reste du continent.
La totale absence d'accès à des services financiers. Utiliser le airtime, à défaut de mobile banking à l'époque, pour tout simplement s'inclure financièrement. Et donc, c'est à partir de là que Vodafone a inventé et créé le mobile banking entre 2005 et 2007. Et ça a donné M-Pesa en 2007.
Et ce sont les usages, finalement, des populations qui ont... créé l'innovation, est-ce qu'on peut le dire comme ça, Waya Mohamed ?
Oui, complètement, ça a créé le socle de cette dynamique-là, justement qu'aujourd'hui on essaie de mettre en avant, et surtout la spécificité d'Afrobyte, c'est vraiment de sortir le sujet du continent africain, d'aller à la rencontre de d'autres acteurs qui sont intéressés justement par ces technologies, et qui veulent en savoir plus, et qui veulent toucher du doigt aussi ce qui se passe sur le continent africain, comme vous disiez au début, voilà, la tendance est inversée.
Et est-ce que vous diriez que la start-up africaine, sa spécificité, son génie aussi, ça tient au fait qu'elle est capable de proposer des services utilisables par des populations qui souvent ne savent ni lire ni écrire, savent utiliser un smartphone de manière très intuitive, très, très frugale, très simple, mais ne sont pas formées aux nouvelles technologies. Quoique c'est en train de changer aujourd'hui parce qu'il y a des écoles de code dans les banlieues populaires, etc. Mais Awaya Mohamed.
Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que Elles n'ont pas le choix. Elles doivent créer de l'attraction tout de suite pour survivre. Donc, comme on dit tout à l'heure, il faut vraiment sortir du schéma Silicon Valley-esque parce que c'est pas du tout adaptable aux spécificités du continent. Et une fois que la start-up, justement, commence à avoir de l'attraction, qu'elle a un peu de croissance, il faut qu'elle trouve un schéma pour accélérer. Et ça, on va en parler, je crois, après. Et aujourd'hui, très difficile quand il y a très peu de capitaux, quand il y a des infrastructures défaillantes et quand il y a un manque aussi de talent. Donc, voilà, quand je parlais de défis, c'est pas des défis moindres, c'est des gros défis à relever. Et c'est en ça qu'elle est vraiment, pour le coup, très, 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 très puissante, ouais. La start-up africaine.
Alors, les innovations, les services proposés par des start-up africaines sont partout sur le continent. Il suffit de lire votre enquête, Samir Abdelkrim. J'ai cité des exemples, mais ça touche vraiment énormément de moments de la vie quotidienne, une semaine d'un usager, d'un citoyen, d'un habitant, de n'importe où sur le continent. Mais est-ce que pour autant, ça touche une partie très importante de la population ? Les voisins, est-ce que vous vous sentez concernés ? Appelez-nous au 33 1 84 22 61. 71. Les startups africaines peuvent-elles transformer l'Afrique en profondeur ?
You hear it, ambassadors bringing pure fire for your spirit. Push up your lights out when you feel it. International lyrical slaughter all camps. My passport is priority, packages all stamps. We came a long way from freestyling in the basement. Now it's war tours, crowds applaud, so amazing. You couldn't tell me this in 96 when I was starving though. Rocking mics, getting nice, making no type of dough. So I flip that switch when I hit that flow. People talk about how I rip that show. They on my level when I'm on an instrumentalist, a little sentimental, so they gots to go. I got the heat they missing, it shines so bright and glisten. We can't forget the mission, ghetto youth, they got to listen. First check I got, I bought some land back in Ghana. So if it goes bad, I'll be back in the savannah. In the meantime, you can catch me chilling in Barbados. Long time coming, I'll be counting out my pesos.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle des start-up africaines aujourd'hui chez 7 milliards de voisins. Comment elles vous touchent au quotidien, dans vos usages, dans vos manières de consommer ? Le continent africain, c'est le continent le moins bancarisé au monde. C'est aussi le continent qui possède le moins de magasins physiques. D'où le besoin pour les consommateurs africains de faire des achats sur Internet sur d'autres continents que l'Afrique. Mais comment, si on n'a pas de compte en banque et puis pas d'adresse de livraison aussi, bien souvent, c'est tout le problème du e-commerce en Afrique. Oumariam, vous êtes en ligne avec nous à Dakar, bonjour.
Oui, bonjour.
Oumar, vous avez créé il y a 6 ans Wikari, vous êtes le cofondateur de cette start-up africaine sénégalaise Wikari, qui est une structure logistique qui permet à ses clients d'acheter partout dans le monde et d'être livré au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement comment ça fonctionne pour un consommateur lambda?
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont sur le plateau. Donc Wikari, c'est une start-up, on va dire, e-logistique. Donc c'est de la logistique spécialisée sur les e-commerce. Ce qu'on fait, c'est qu'on permet à nos clients de pouvoir acheter dans le monde entier Il y a même une assistance à l'achat pour ceux qui ne sont pas bancarisés. On les aide à payer sur tous les sites du monde et après on s'occupe de la livraison en Afrique, au Sénégal pour l'instant. Bon, on a déjà des clients aussi au Mali, au Bénin, au Togo, mais principalement au Sénégal. Avec un choix de livraison, un choix de mode de livraison par bateau ou par avion, suivant la taille, le poids du colis. Voilà.
Le client paye à la livraison, hein, c'est ça ? Il vous paye, vous ?
Pay and delivery.
C'est ça, pay and delivery, comme on dit ?
Cash and delivery.
Cash and delivery. Donc, il paye en cash parce qu'il n'a pas de carte de crédit, et c'est vous qui payez le site de e-commerce, où vous, c'est ça, où le client a choisi son produit.
D'accord. Bon, en fait, si le client est bancarisé, il passe directement le produit.
Bien sûr.
Et il fait juste livrer sur notre structure logistique. Une de nos structures logistiques se trouve soit en France, soit aux États-Unis, soit en Chine, soit à Dubaï. Sinon, s'il n'est pas bancarisé, il nous donne en cash le prix du produit ici. Et on achète pour lui, et notre prestation logistique est payée à la livraison.
Rappelez-nous le taux de bancarisation dans un pays comme le Sénégal.
Il est de 22%.
D'accord.
Puis sans frais.
22%.
Oui,
bonjour.
Samir.
Alors, je ne savais pas que ce serait Wikari qui témoignerait. Lorsque j'ai démarré mon tour d'Afrique, Tech Afrique, en 2014, j'ai démarré par le Sénégal à Dakar et j'ai utilisé Wikari parce que je me suis fait livrer un Kindle.
Une tablette tactile.
Voilà, donc ça prenait une petite.
Une liseuse, pardon, électronique.
Voilà, il y avait pas de friction, c'était vraiment très très clair. Et c'est une start-up en plus qui a. C'est l'une des startups francophones, en tout cas au Sénégal, qui a levé récemment 300 000 euros en 2017 auprès du premier fonds d'ailleurs de capital risque sénégalais qui s'appelle Teranga Capital.
Teranga,
et c'est une très belle startup.
Est-ce que ça change vraiment l'accès au e-commerce au Sénégal, les services proposés par Wikari et d'autres, puisque vous avez des concurrents, même si vous êtes, je crois, tout seul sur le créneau acheté à l'étranger?
Bon, on a un concurrent, un ou deux concurrents qui sont sur le même segment que nous, parce que nous ce qu'on fait c'est de la cross-border logistics, c'est-à-dire on passe les frontières. Oui. C'est pas de la livraison locale.
Oui, on est bien d'accord.
Il y a énormément de compagnies qui le font.
On est bien d'accord. Donc, hein. C'est comme ça que Samir a commandé donc sa liseuse électronique sur un site qu'on ne citera pas, mais qui est situé à l'autre bout du monde. Mais est-ce que ça change vraiment l'accès au e-commerce pour les Sénégalais?
Donc, on a des clients qui sont particuliers comme professionnels. Je vais vous donner des exemples de clients. On peut avoir des multinationales comme Orange, InTouch ou autres, mais on a aussi les cultivateurs qui sont au fin fond du Sénégal qui peuvent nous appeler pour nous dire « Est-ce que vous pouvez m'aider à acheter une pompe qu'on m'a dit qui existait en Chine ou qu'on m'a montré sur Alibaba ?»
Ah oui, c'est ça. Et le cultivateur au fin fond du Sénégal, il ne sait pas forcément bien non plus utiliser un site de e-commerce.
Exactement.
Donc vous le guidez à la voix au téléphone, c'est ça ?
Bien sûr, après on va l'assister.
Oui, vous avez des équipes patientes qui ont du temps.
Exact. Ah ben ça, on a 8 personnes qui font que ça. On sait qu'on est sur un marché naissant.
D'accord.
Donc on est obligé d'éduquer la clientèle.
Ouais, non, mais c'est génial. Qu'est-ce qui manquerait pour une transformation en profondeur ?
Bon, pour une transformation en profondeur, ils l'ont dit tout à l'heure, hein, c'est d'abord parce qu'en Afrique, on a des produits qui sont très localisés. Nous, start-upers, nous créons des produits pour résoudre des problèmes là où on est. Et ce qui peut faire la différence, c'est de pouvoir adapter ces produits-là dans les autres pays ou dans les autres pays africains.
Trouver les mêmes services partout sur le continent, avec les mêmes
technologies,
d'une certaine manière, qu'elles soient un peu unifiées.
Exporter notre service dans d'autres pays qui ont exactement le même besoin.
Oui, c'est ça. Moi, je me mets à la place du consommateur, excusez-moi, ou Mariam, mais moi, je ne suis pas entrepreneuse. Hein. Je me mets à la place de Madame Koulibaly qui aimerait bien avoir votre service là où elle est, dans une file secondaire du Burkina Faso, par exemple.
Exactement. Donc, c'est l'optique dans laquelle on est. Je disais tout à l'heure qu'on avait déjà quelques clients au Mali, au Bénin, au Togo. Nous sommes en train de nous développer sur toutes ces parties-là, au moins dans l'UEMOA, pour pouvoir offrir notre service à tous ces clients. Parce qu'on sait que le besoin est là. Vous voyez, c'est différent d'une start-up qui va créer une application pour les taxis à Dakar, qui ne pourra pas forcément s'exporter, parce que cette même application existe déjà à Abidjan, ou on n'a pas les mêmes problématiques que les taxis sur Dakar.
Ça veut dire que vous êtes en train de faire tous les uns et les autres, là, entrepreneurs de start-up africaines, faire le constat que vous avez eu des idées géniales pour des besoins très locaux et vous êtes en train de réfléchir à des idées beaucoup plus larges, beaucoup plus continentales.
Exactement, exactement.
Ça s'appelle changer d'échelle. Hein.
Exactement.
Exactement, c'est ça.
Samir Abdelkrim et Aouya Mohamed, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui manque encore là pour ce passage à l'échelle, Aouya Mohamed ? Bah,
justement, là, oui, Cari, c'est un sujet parfait. Là, justement, il est en train d'évoquer l'un des plus gros défis aussi, qui est que souvent les marchés dans lesquels ils sont des marchés petits, et donc ils n'ont pas le choix, ils vont devoir avoir une démarche pour aller au-delà de leurs frontières et essayer de vendre aussi leurs produits dans d'autres marchés. Donc voilà, là pour moi, c'est un exemple parfait d'un défi de plus à relever pour passer à l'échelle.
Vous seriez nigérian, peut-être que vous ne chercheriez pas à dépasser les frontières, évidemment. Mais oui, le Sénégal, ce n'est pas le Nigeria en termes de population.
Ça, avec les problématiques que ça comprend, justement.
Exactement ça, si on prend... C'est très juste ce que vous venez de dire, parce que, effectivement, moi, j'étais à Conakry il y a quelques mois, il y a une start-up alors, qui ne fait pas exactement ce que fait Wikari, qui s'appelle Magic. Lui, fait vraiment de la livraison au quotidien, mais pas avec cette notion transfrontalière. Conakry, donc là, il a une petite traction, il a vraiment une croissance, mais aujourd'hui, il plafonne parce que Conakry, alors il résout un vrai problème, et les problèmes de transport en Conakry sont immenses, mais tout de suite, il se dit que le marché est trop petit. Et il oublie, c'est obligé de partir sur d'autres marchés environnants qui rencontrent le même problème pour pouvoir croître et se développer et surtout résister à la concurrence.
Une dernière question, Oumaria, mais après on vous libère parce que vous êtes un homme très occupé à Dakar, mais qu'est-ce qu'il vous manque à l'heure actuelle, s'il y avait un message à passer, pour, en tant que chef d'entreprise d'une start-up africaine qui a déjà 6 ans, Wikari, pour créer ces corridors logistiques intra-africains?
C'est vraiment très compliqué au niveau administratif et douanier. D'où l'importance d'un marché commun africain. On en parle souvent. Le président Kagame a fait une annonce il y a quelques mois. La semaine prochaine, je suis même invité à un colloque sur ça à Nairobi. Mais le jour où on aura un marché commun, comme en Europe, où les produits peuvent passer d'un pays à l'autre sans pour autant payer la douane, ça changera beaucoup de choses pour le e-commerce intra-africain.
Merci beaucoup, Mariam, d'avoir été en ligne avec nous. On vous libère. Vous êtes le cofondateur de Wikari, donc pour acheter partout dans le monde et être livré au Sénégal et puis bientôt aussi dans d'autres pays de la sous-région. Samir Abdelkrim, sur le
message il est clair, c'est que il est parfaitement logique, c'est que les startups, les entrepreneurs montre un chemin, montre une voie, mais c'est illusoire de penser qu'elles vont résoudre tous les problèmes s'il n'y a pas d'accompagnement politique derrière.
Est-ce que l'Afrique anglophone a une longueur d'avance ?
C'est ce qu'on a tendance, à dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les écosystèmes sont, en tout cas, accélèrent plus vite. Ça, c'est clair et net. Ensuite, là, par exemple, je reviens du Bénin. Voilà, j'ai vu des choses vraiment très intéressantes et je pense tout simplement que il manque peut-être juste la partie visibilité, Samir. Parce que tu en penses, et surtout, encore une fois, voilà, la possibilité pour eux d'avoir accès aussi à des capitaux.
Qu'est-ce que vous avez vu de très intéressant au Bénin ?
Oh, plein de choses. Par exemple, j'ai vu l'équivalent d'une start-up qui fait l'équivalent de Doctissimo, par exemple, voilà, qui travaille avec tous les pays africains. On le sait pas, il a réussi à mettre en place cette plateforme où tous les médecins du continent se coordonnent et discutent ensemble. J'ai trouvé ça, par exemple, génial. Et puis après, j'ai vu des choses un peu plus artisanales. Mais vraiment, en tout cas, des profils très intéressants qui ont juste besoin d'un petit truc qui leur permettra de passer à une autre
étape. Est-ce que vous, Aouya Mohamed, vous avez quand même une propension à travailler davantage avec le monde anglophone? Je ne sais pas, vous êtes d'origine somalienne, vous avez grandi en France.
Je suis née en France.
Oui, vous êtes née en France, tout à fait. Mais est-ce que néanmoins, vos regards sont aussi beaucoup tournés vers l'Afrique anglophone?
Alors, ça a été, pour tout vous dire, on est très panafricain. Et en fait, l'objectif aussi d'Afropath, c'est de connecter tous ces écosystèmes. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'ils sont là, ils sont présents, mais ils ne se connaissent pas. Pour la plupart, ils ne se sont presque jamais rencontrés. Et un certain nombre de tech hubs, comme on dit, se sont rencontrés chez nous à Afropaïs. Et ce qui est intéressant, c'est que ça facilite aussi le travail, la collaboration sud-sud. Et ça, pour nous aussi, c'est super important.
Y compris quand on ne parle pas la langue.
Exactement. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est que vous avez les anglophones qui ont compris qu'il y avait aussi des opportunités business sur la partie francophone. Et donc, voilà, il y a un réel aussi attrait des anglophones pour les pays francophones.
Vous nous appelez les voisins et les voisines au 33 1 84 22 71 71. On laisse la parole à des auditeurs qui veulent nous parler aussi de leurs usages, de leur façon dont ils appréhendent les startups africaines sur le continent. Olivier nous appelle de Yaoundé. Bonjour Olivier.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en direct chez 7 milliards, on vous écoute.
Oui, alors là comme ça je viens vous parler de deux applications que j'utilise. Elles sont 100% camerounaises. Alors la première application c'est Mon Taxi. Mon Taxi est une application qui fait dans la mise en disponibilité des véhicules de transport en commun. Donc vous avez votre taxi, vous avez votre application, vous commandez un taxi et puis l'entreprise vous contacte et on vous envoie un taxi à votre localisation.
Ouais. L'avantage évidemment c'est qu'on a un taxi qui est vraiment sûr, quoi. On sait dans quelle voiture on monte.
Voilà. Voilà, ouais,
parce que je sais qu'il y a un problème quand même de violence urbaine à Yaoundé.
Voilà, et l'insécurité. Donc, avec Mon Taxi, on a la possibilité d'avoir un taxi sûr et qui nous amène là où on veut. On peut même le prendre toute la journée pour faire des courses et nous ramener à la maison.
D'accord.
Oui. Et une autre application, c'est Orion. Orion est un jeu vidéo développé par Kiro Game au Cameroun.
Ouais.
Olivier Madiba.
Oui. Ouais.
Olivier Madiba, c'est ce que dit Samir. Samir connaît bien.
Prince de Zama, qui alors subit un coup d'État de son beau-frère le jour de son couronnement et de son mariage. Le couple royal s'exile et décide de parcourir le monde à la conquête d'un soutien et ils devront donc reconquérir l'héritage guerrier d'Enzo pour le trône de leur...
C'est un jeu de stratégie sur l'histoire africaine. Moi, ce que j'aimerais que vous nous disiez, Olivier, c'est vous ne travaillez pas dans ces entreprises, je présume. Vous appelez en tant que consommateur.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Qu'est-ce que ça change dans votre vie d'Africain, qu'est-ce que ça change?
Bon, eh bien, mon taxi, lui, il me permet, comme je ne suis pas véhiculé, lui me permet de me déplacer en toute aisance et en toute sécurité. Oui, et Orion, maintenant, je vois le concept d'un jeu vidéo né Afrique. Et on nous raconte vraiment l'histoire de l'Afrique. Parce qu'en Afrique, on consomme un peu plus de jeux qui viennent d'étrangers. Donc, je trouve que le concept est naturel et il faut encourager des startups de ce genre.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier, de nous avoir appelé en direct de Yaoundé. Bien évidemment, les autres voisins et voisines, vous nous écoutez, vous pouvez nous appeler pour partager ces solutions qui émanent de start-up africaines et qui changent votre vie au quotidien. 33 1 84 22 71 71. Samir Abdelkrim, vous citez énormément d'histoires de start-up africaines, des solutions très concrètes, par exemple pour déclarer les naissances en ligne, c'est proposé par une start-up au Burkina Faso, on a parlé des faux médicaments aussi en Afrique, mais si on regarde les grands problèmes, les grands maux du continent, on voit bien que la déclaration des naissances sur le continent africain reste toujours un immense problème. On ne progresse pas réellement pour le moment. Alors est-ce que c'est parce qu'on est trop impatient que ces start-up n'ont que 3, 4, 5 ou 6 ans? Combien de temps faudra-t-il pour que réellement il y ait des connexions entre ces start-up pour que ça change la vie des habitants?
Moi, je pense qu'il ne faut pas... Ce n'est pas parce qu'une start-up... souvent, on peut dire que c'est des exemples sympas, expérimentales, mais fondamentalement, ça n'a pas vraiment d'impact sur la vie au quotidien. Je pense qu'il ne faut pas surestimer, il ne faut pas non plus sous-estimer. Au printemps dernier, je me suis rendu à Bamenda, au Cameroun. Donc, c'est la partie anglophone du Cameroun, qui aujourd'hui... traverse une période un petit peu compliquée. Et je suis parti rencontrer une start-up africaine, un entrepreneur qui s'appelle Conrad Tankou, qui est de cette région, qui a développé un microscope, donc là on est dans la e-santé, un microscope digital qui permet de faire des biopsies pour, en brousse, réaliser des diagnostics du cancer du sein et du col de l'utérus.
Avec une technologie,
Très simple, imprimée en 3D dans un Fab Lab, donc dans un makerspace, avec des matériaux très légers, qui fonctionne sur batterie, ce qui veut dire que ce microscope digital et le dépistage peut se réaliser dans les zones les plus reculées où il n'y a pas d'électricité.
Donc pour détecter des tumeurs potentielles sur ces prélèvements d'organes.
Tout à fait, c'est-à-dire que le microscope filme et prend des photos. Donc ça se passe dans des sessions de sensibilisation dans les villages où on rassemble les femmes du village. Et l'information, une fois qu'elle est reconnectée à Internet, bascule sur le cloud. Et ce sont des spécialistes à Yaoundé, des oncologues, qui analysent les
D'accord, mais il faut quand même faire la biopsie.
Oui, et donc il y a toute et la start-up, il y a toute une donc le start-upper est médecin, Conan Tankou est médecin, et il y a toute une équipe médicale qui vont réaliser les biopsies. Alors on peut se dire que surtout dans un territoire compliqué, il a une petite équipe. En 6 mois, il a quand même screené près de 1000 femmes, et sa solution a permis de détecter en amont un peu plus de 100 tumeurs cancéreuses. Donc il y a un impact. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème profond de déficit infrastructurel, et ce sont les innovations les plus disruptives, même si elles sont portées par des start-up qui n'ont pas beaucoup de fonds, mais qui ont cette volonté de changer les choses, qui peuvent faire la différence. Et bien sûr, l'enjeu, et c'est sa volonté, c'est de passer à l'échelle, à commencer par passer un partenariat, c'est pas très compliqué, lui, il veut faire des partenariats avec le ministère de la Santé pour pouvoir accompagner le ministère de la Santé à faire des dépistages dans toutes les zones les plus reculées du Cameroun.
D'où ma question, je vous pose aussi à vous, Aouya Mohamed, c'est jusqu'où les start-up peuvent court-circuiter les états défaillants sur le continent africain ? À un moment donné, où...
Alors avant de revenir, avant d'arriver sur les politiques publiques, j'aimerais juste revenir sur ce que disait l'auditeur, parce qu'il a parlé d'une application pratique, le taxi, ensuite il a parlé de jeux vidéo. Alors ça peut paraître un peu accessoire, mais ça reste une industrie très importante sur le continent africain, et ça on le sait peu. Et surtout, il a dit une chose très importante, c'est qu'il a vu des personnages du continent africain l'inspirer et justement lui donner aussi des idées, l'envie aussi de faire. Et c'est intéressant de voir aussi l'impact du narratif sur justement la vie des gens. Ça, c'est aussi important. Et vous avez deux personnes, par exemple, qui travaillent sur ces sujets-là. Vous avez Sidik Bakayoko, qui est à Abidjan et qui met en place un festival chaque année qui rassemble un nombre incroyable de jeunes gens. Et vous avez notamment un jeu vidéo éthiopien qui s'appelle Kukulu, et qui, par exemple, quand ils sont... C'est l'histoire vous connaissez peut-être, c'est l'histoire d'un coq qui se fait courir après par... Et ça permet aussi d'avoir un impact énorme sur, en tout cas, les rôles modèles et la façon dont les gens peuvent ensuite raconter leur histoire. Et pour arriver aux politiques publiques, aujourd'hui, il se passe plein de choses avec les startups, et surtout, on peut collecter de la data, on peut collecter des chiffres. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nos gouvernements se basent sur des statistiques pour mettre en place des politiques. Là, avec ce qui se passe sur le continent, on va être en mesure bientôt de pouvoir justement mettre en place des politiques publiques grâce aux chiffres que ces startups vont pouvoir justement donner et délivrer. Et ça va être un premier pas dans les prochaines années.
Alors, sur les politiques publiques, jusqu'où les startups peuvent court-circuiter les états défaillants ?
Je ne pense pas qu'il faille poser les termes dans ces termes-là. Je pense qu'aucune start-up a intérêt à court-circuiter des États. Je pense que, par contre, les start-up ont intérêt à aider les États à court-circuiter les problèmes et les pénuries. C'est comme ça que moi, je poserai le sujet. Et je pense que... Le témoignage de Wikari est précieux, parce qu'il y a aujourd'hui... une volonté. Donc il y a un manque, le manque de marché panafricain. Moi, je dirais que ce qui manque, et ce qui a été annoncé, n'empêche, par une volonté politique, Smart Africa, par exemple, à Kigali, de créer un marché numérique africain sur le modèle d'un marché communautaire européen. La question, c'est que créer un marché numérique africain, c'est pas les entrepreneurs qui arriveront à le faire. Ce sont les gouvernements. Ça passe par le régalien, la volonté politique.
Et la question... Trois mesures urgentes à prendre pour les dirigeants africains ?
Moi, alors, je ne sais pas. Dans l'ordre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un point là, tout de suite, que je soulève. La question de la connexion. Si l'Afrique ne se connecte pas elle-même, d'autres s'en chargeront. Les GAFA. Ça rappelle les gens du MIEC. Moi, je les appelle les hyperpuissances de l'Internet. Facebook, Google, pas que. Il y a SpaceX, Elon Musk, donc il y a plein de projets qui se lancent. Il y a 2 ans très exactement, moi j'étais à Nairobi au iHub, pendant la visite de Mark Zuckerberg, il devait lancer son satellite pour connecter l'Afrique, qui a explosé. Sauf que quand j'avais fait des reportages pour Le Monde sur ce sujet-là, on disait sur place que il va relancer un satellite dans 5 ans. Il va le relancer l'année prochaine, 3 ans. Donc ils gagnent du temps. Ils ont des moyens financiers que les Africains n'ont pas. Et la question, et Elon Musk va lancer des milliers de satellites, il a déjà commencé les tests, des milliers de satellites pour connecter les zones blanches et où se trouvent les principales zones blanches du monde, en Afrique. Et la question qui se pose, c'est toute cette valeur, toute cette data que vous soulignez, va être contrôlée et captée par qui ? Par les souverainetés africaines, dans des data centers africains, ou par les hyperpuissances de la Silicon Valley. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie course contre la montre qui est engagée.
Ouais, alors évidemment, les startups africaines, elles, en sont persuadées. Un message de Seydou à Kolda, en Casamance, au Sénégal, qui lui peine à monter une startup. Nombreux sont les gens qui croient à l'économie numérique, aux dividendes des nouvelles technologies pour s'en sortir. Les idées ne manquent pas, nous dit Seydou, mais les financements pour la concrétisation font défaut parce que tout simplement, il y a un fossé, une fracture entre la jeune génération et nos dirigeants qui sont pour la plupart tout sauf de bons élèves dans la maîtrise des nouvelles technologies. Du coup, ils ont du mal à croire que c'est un créneau porteur. Absolument. Ça fait 10 ans qu'on raconte la même chose. Il va falloir attendre combien d'années pour que les hommes de 50 ans, voire beaucoup plus, qui occupent les postes clés au sommet des États, comprennent ce qui se passe?
C'est un gros sujet. Maintenant, il y a aussi quelque chose qui est en train de... Il y a une dynamique aussi sur le continent africain. C'est les nouveaux réseaux, le nouveau leadership, les nouveaux rapports, justement grâce à ces tech entrepreneurs et ces entrepreneurs tout court qui arrivent sur le marché et qui font des choses très intéressantes. On parlait tout à l'heure de connexion, de Wi-Fi, etc. Il a raison, Samir. Il y a par exemple Google qui est en train de mettre en place du Wi-Fi gratuit au Nigeria. Donc voilà, la data, à qui cette économie-là va profiter, c'est vraiment la question. Et puis voilà, moi je pense que les politiques publiques et les politiques en général vont gagner à se connecter justement avec ces écosystèmes-là. Il ne faut pas qu'ils les craignent, ouais, en fait.
Encore faut-il le comprendre.
Exactement.
7 milliards de voisins, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle des startups africaines. En quoi vous vous sentez concerné? Quelles sont les solutions, les services que vous utilisez au quotidien? Il nous reste quelques minutes pour que vous puissiez nous appeler. Et on va parler aussi, bien sûr, dans quelques instants, des startups du numérique et de l'emploi des jeunes.
7 milliards de voisins.
Oui, 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Oui, Zolo.
Soyez les bienvenus.
Les startups du numérique et l'emploi des jeunes. Il y a moins d'un an, nous, à 7 milliards de voisins, on était à Abidjan pour remettre le prix RFI Challenge App qui récompensait une application pour l'éducation des filles. Et du coup, à cette occasion, on a fait une émission sur le numérique. Peut-il créer des emplois? Personne n'était vraiment capable de répondre à cette question. Samir Abdelkrim, vous, qu'est-ce que vous pouvez répondre à cette question aujourd'hui?
Dans les principaux obstacles que rencontrent aujourd'hui, c'est l'un des... principaux obstacles.
C'est trop tôt pour avoir des réponses.
Les startups, c'est vraiment, outre le poids culturel, le côté découragement, c'est un peu partout. C'est vrai que c'est très fort dans les pays africains, mais ça, on peut trouver ça un peu partout.
Mais quand
c'est
vous vraiment assistez à des compétitions entre startups, incubateurs,
exemple,
où vous avez des filles qui arrivent de la banlieue de Dakar, qui sont là avec des idées, etc. À terme, ça va créer quoi comme emploi?
Le problème principal, de mon point de vue, je peux me tromper, c'est le manque d'accompagnement. Comment on forme, comment on accompagne ces entrepreneurs dans la transformation de leurs valeurs en business? Le financement. Attention, je sais que c'est la tarte à la crème, mais ça évolue plutôt positivement parce qu'il y a 5 ans, sur l'ensemble, donc à une échelle panafricaine, sur l'ensemble du continent africain, c'est pas mes chiffres, sont ceux de Partech Ventures, qui est un des fonds d'investissement les plus en vue sur la place internationale, il y avait 44 millions de dollars de fonds levés il y a 5 ans pour l'ensemble du continent. Aujourd'hui, c'est rien. Mais aujourd'hui, c'était une goutte d'eau. Mais 5 ans plus tard, on a dépassé la barre du demi-milliard de dollars, de dollars soulevés par les startups pour se financer. Donc ça reste, même un demi-milliard, ça reste pas grand-chose. C'est peut-être ce qui se lève en un week-end ou une semaine dans la Silicon Valley. Mais ça progresse. Mais ça veut dire qu'on parle quand même à l'échelle d'un continent. Et ça veut dire qu'il faut accélérer et créer de plus en plus d'outils pour accompagner ces entrepreneurs.
Ah oui, Mohamed, pour vous, est-ce que les startups africaines du numérique peuvent à terme créer des emplois en masse? quand on voit la masse de jeunes diplômés et de jeunes qui arrivent tout court sur le marché de l'emploi chaque année ?
Oui, moi j'y crois. En masse, je ne sais pas. En revanche, pas, ceux qui sont diplômés et formés aujourd'hui sont extrêmement sollicités. Donc ça, c'est aussi un gros problème pour les startups, c'est pouvoir garder et pouvoir fidéliser ceux qui sont dans leur entreprise. Et puis après, il y a aussi l'aspect culturel. Par exemple, je vous parlais du Bénin tout à l'heure. J'ai beaucoup entendu de jeunes gens et de jeunes femmes nous dire bah, « Moi, je veux être entrepreneur, mais le problème, c'est que ma famille, en fait, ils sont très conservateurs. Ils préfèrent que je sois médecin, ils préfèrent que je sois professeur. »
On ne t'a pas payé des études pour que tu deviennes
exactement fonctionnaire aussi. Donc, ouais. Il y a cet aspect-là. Après, ils prennent des risques énormes.
J'espère que les jeunes qui nous écoutent vont changer d'idée. Oui. Samir Abdelkrim, vous préparez là, à l'heure actuelle, le sommet de l'innovation inversée entre l'Europe et l'Afrique. Ça va s'appeler Emerging Valley. Ça va se tenir à Marseille les 19, 20 et 21 novembre prochains. C'est bien ça. En deux mots, c'est quoi l'innovation inversée? Pourquoi les Africains sont concernés?
Alors, Emerging Valley, donc c'est un sommet que j'ai fondé, que j'ai créé à Marseille, qui est ma ville en fait, après mon retour d'Afrique, pour un tas de raisons, et parce que Marseille, ex-Marseille, c'est le territoire le plus légitime, et géographiquement, historiquement, socialement, pour être un petit peu cette porte, ce point avancé de l'Europe et de la France, deuxième ville de France, vis-à-vis de la Méditerranée et de l'Afrique. J'ai voulu tout simplement rassembler en Provence, à Aix-Marseille, des start-upers. Donc j'ai une première édition en 2017 qui est soutenue par toutes les collectivités du territoire.
Mais c'est quoi l'innovation inversée? Il nous reste 2 minutes.
De trouver des solutions du Sud. Donc, par exemple, dans la télé-irrigation au Niger, par rapport à la sécheresse, par exemple, dans l'e-santé, par rapport aux déserts médicaux, des solutions au Sud, mais qui peuvent aussi répondre aux mêmes problèmes que rencontrent les pays du Nord et que les pays du Nord rencontreront de plus en plus du fait, par exemple, du réchauffement climatique.
Le meilleur exemple, on revient, la boucle est bouclée, le transfert d'argent par téléphone mobile est arrivé en Europe plusieurs années après l'Afrique.
Oui. Orange Bank.
Et ça répond à des besoins, y compris des consommateurs bancarisés en Europe, d'ailleurs.
Voilà. Sauf que Emerging Valley va être sur des problèmes un peu plus fondamentaux. La question de la tech for good. La question, d'ailleurs, c'est le sommet 2018 est placé sous le patronage du président de la République,
ouais,
Emmanuel
Macron.
La
tech for good, c'est quoi? Ça, c'est plus
justement, ça nous intéresse plus. Good, justement, la tech for good, c'est le sujet qui est porté par le président de mettre l'humain au centre de la technologie. Et quelque part, l'Afrique peut montrer, peut donner des illustrations pour mettre l'humain au centre de la technologie. À défaut, le risque, c'est que l'on assiste plutôt à une silicolonisation du numérique africain justement, on ne répond pas aussi à ces problématiques de souveraineté et de régalien.
Donc, replacer les besoins de l'usager, du consommateur au centre et s'éloigner d'une logique du business de l'offre, inventer des offres incroyables auxquelles personne n'aurait pensé, alors que tous les jours, il y a des besoins qui ne sont pas, en tout cas, qui ne sont pas assouvis pour les pays en développement, parce que là, il y a des problèmes cruciaux. Mais pour l'Europe, est-ce que demain, il y aura des technologies qui auront été pensées pour l'Afrique, par l'Afrique, voire même, et qui pourront se transférer et répondre à des besoins des consommateurs européens?
Bah, c'est déjà le cas, oui, bien sûr. Oui, oui.
Quoi?
Alors, européen, alors par exemple, on parlait de... on revient un peu plus tôt dans l'émission, MPDigré, aujourd'hui, ça s'exporte en Asie.
Pour les
faux médicaments.
On va se retrouver une autre fois, il faudra faire d'autres émissions, bien sûr, là-dessus, sur la tech, le high-tech africain. Merci à vous, Samir Abdelkrim. Vous publiez Startup Lions, c'est la deuxième édition d'ailleurs, au cœur de l'African Tech. Et donc, à suivre fin novembre, le sommet de l'innovation inversée. On en reparlera, bien sûr, entre l'Europe et l'Afrique. Merci à vous, Awaya Mohamed, cofondatrice d'Afrobytes. Le prochain conférence.
On part en tournée mondiale, Londres, New York, Hong Kong, et puis voilà, deux villes africaines sans doute, et ensuite le final à Paris.
Et pour connecter donc, bien sûr,
des start-up africaines avec
le reste du monde.
Exactement.
Merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast et sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique Magazine en 3 clics. C'est fait, vous réécoutez. Demain, 7 milliards de voisins, rendez-vous des tchatcheuses. Comme chaque mois, je reçois 3 femmes journalistes de 3 continents pour commenter l'actualité de leur choix. Merci à vous, les voisins et les voisines, de votre fidélité du lundi au vendredi. On est en direct sur RFI.